Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour à tous, bien évidemment, bonjour à toutes aussi. Avant de vous présenter mon invité du jour qui est Jean Pruvot, j'aurai à cœur de vous dire son long parcours. Je précise que le titre de l'émission Antiquissimo d'aujourd'hui, c'est « Bien écrire le français avec une ribambelle, une kyrielle, une centurie de mots latins ». Évidemment, nous allons parler français et latin, vous l'avez compris. Et toujours intéressé par la collection dont je vous parle assez souvent, les Petits Latins, collection des belles lettres qui est tournée vers la pédagogie, eh bien je désirais donc m'entretenir avec l'universitaire Jean Pruvot, grand spécialiste du lexique, des mots, un universitaire qui a exploité vraiment tous les moyens, tous les supports pour partager cette science des mots et cette réflexion sur le langage. Livres, émissions de radio, vidéos, publications, il a mis tout ça à son actif pour ce combat pour les mots. Ce sera donc une nouvelle fois l'occasion de semer, de planter les nouvelles graines enracinées dans un bon terreau antique. Et les auditeurs fidèles auront peut-être remarqué que je faisais un clin d'œil à une émission précédente dans laquelle on avait tenté de botaniser l'Odyssée. Audite et legite. Écoutez et lisez, eh bien, c'est ce que nous allons vous inciter à faire avec ce personnage que je vous présente maintenant, Jean Pruvot, dont le livre est sorti en octobre dans la collection précitée. Et le livre s'intitule « 100 mots latins pour bien écrire 1000 mots français ». Alors, des chiffres et des lettres, c'est le cas de le dire. Mais avant donc de continuer sur ces chiffres et ces lettres, je signale que tout bientôt, à savoir demain, un autre livre de la collection La vie des classiques, Les petits latins, va sortir, dont nous reparlerons peut-être, mais j'annonce déjà qu'il s'appelle De Agrippinae Confessione, la confession d'Agrippine, une tentative menée par Marjolaine Renvoisé. Mais là, je retourne donc à Jean. Et à ce désir de passer des mots aux autres dans cette collection ou ailleurs et de dire un petit peu tout ce que vous avez fait et votre passion pour les dictionnaires, n'est-ce pas?
Oui, alors en vérité, c'est une passion qui a quelques décennies et qui a commencé quand j'étais étudiant et où j'ai rencontré Bernard Quémada, qui était à l'époque directeur du Trésor de la langue française, ce fameux TLF, avec ses 100 000 mots et 450 000 citations. Et passant un doctorat avec lui, j'ai petit à petit eu l'envie, moi aussi, d'avoir beaucoup de dictionnaires, et de bouquiniste en bouquiniste, de brocante en brocante. Eh bien, je suis aujourd'hui avec 10 000 dictionnaires, ce qui est une forme de folie, et un peu plus. Mais c'est une folie bien agréable, et dans laquelle eh bien, on peut puiser, dans le fond, toute une série d'informations quant à l'histoire des mots, avec évidemment des erreurs d'hier, les dictionnaires d'aujourd'hui étant bien plus, en quelque sorte, corrects dans l'étymologie, mais en tout cas, bon, une belle aventure.
Donc, vous avez enseigné à l'université de Cergy-Pontoise, on en reparlera après, mais puisqu'on était dans les dictionnaires, pendant ce long parcours professionnel, vous avez créé la Journée des dictionnaires, justement, un rendez-vous international. C'est assez curieux comme idée et vraiment intéressant.
Ben, en effet, dès que j'ai été élu maître de conférence à l'université de Cergy, j'ai eu à cœur de remercier, dans le fond, ceux qui m'avaient conduit jusque-là, et en particulier donc, Bernard Quémada, mon professeur, mais tous les lexicographes, lexicologues que j'avais dû lire, que j'avais consulté, avec lesquels je m'étais entretenu. Et donc, j'ai lancé une journée des dictionnaires, sans penser qu'il y en aurait une deuxième, une troisième, mais devant le succès avec plus d'une centaine de personnes qui étaient venues. Et à l'époque, il y avait Bernard Quémada et Josette Redebove, l'épouse donc d'Alain Rec, qui était vraiment une brillante linguiste. Bref, à la fin de la journée, j'ai annoncé que l'année suivante, il y en aurait une autre. Et ça a duré 30 ans. Et donc là, je peux même annoncer qu'en mars prochain, il y aura, alors je ne sais plus, je sais plus si c'est la 31e, la 30e, je m'y perds un peu, mais en tout cas, une autre journée des dictionnaires. La Covid avait un peu, évidemment, marqué du sceau de l'absence 2 journées.
Donc, cette journée des dictionnaires fait de vous un héros des mots et on le sait aussi que vous avez laissé une empreinte forte au laboratoire de l'université de Cergy-Pontoise où vous transmettiez justement ce goût pour la lexicologie, puisqu'il y a un laboratoire de cette université qui porte votre nom et qui rend hommage donc à cette carrière mise tout entière au service des sciences du langage, de la linguistique. Alors, j'aimerais vous demander si le passé familial, c'est-à-dire j'ai vu que vous aviez des parents sténographes, vous a incité à cette folie pour les signes.
Alors, merci d'abord d'avoir en quelque sorte radiographié un petit peu mon histoire, parce que c'est vrai qu'on est tous issus de personnes, de ses parents, de ses maîtres, et je me sens profondément redevable à mes parents qui étaient professeurs de sténodactylographie et qui donc, alors c'est quasiment un mot grec, hein,
Oui.
qui étaient donc très sensibles à cette sténographie, sténo voulant dire vite,
Vite,
et
oui.
c'est écrire vite
Vite.
avec des signes, et qui par conséquent vous oblige à être très attentif à l'aspect phonétique des mots. Et puis de l'autre côté, la dactylographie, alors là,
Oui.
on sait bien que sur nos claviers, le E accent aigu ou le E accent grave ou le E accent circonflexe, ça suppose des touches différentes, donc on est là bien obligé d'être attentif à cette forme des mots, donc forme phonétique, forme graphique, tout ça m'a vraiment incité, je dirais, à s'intéresser aux mots. Alors évidemment, on refait toujours son passé et on essaie de trouver de belles raisons, mais je me dis quand même que cette sténo, cette dactylographie que mes parents m'avaient inculquée vers 10-11 ans, donc très tôt, m'avait fait passer même les examens de secrétaire vers 14-15 ans, ce qui fait que j'aurais pu être secrétaire à 15 ou 16 ans. Donc tout ça a quand même marqué. Alors mes parents n'étaient pas latinistes, mais ils étaient espérantistes. Et
Oui.
vers 10-11 ans, il m'avait appris l'espéranto. Et je crois que là aussi,
Eh oui.
il m'avait appris l'espéranto pour une raison très pratique, c'est que les adultes allaient dans les grands congrès et les enfants allaient en colonie de vacances, mais il fallait qu'ils parlent espéranto parce qu'on était entre Allemands, Anglais, Italiens,
Ah, je ne savais pas
Espagnols.
ça que c'était
Et je pense
devenu
que
ouais,
ça,
une norme.
voilà. Et je pense que ça m'a, avant même le latin, puisque j'étais 10-11 ans, hein, ça m'a ouvert à la morphologie aussi, aux racines, aux préfixes, aux suffixes. Et donc, bon, on est là, au cœur d'une langue, en fait, et de toutes les langues, en tout cas des
Et
langues
de tout ce qu'elles
indo-européennes.
essaiment au travers de toute la racine. Et donc, la question qui s'impose maintenant, c'est justement, vous avez parlé de latin, avez-vous été un latiniste fervent?
Alors, je ne suis pas très sûr d'avoir été un latiniste fervent, mais convaincu. Et en même temps, j'avais vraiment en tête, mon père n'ayant pas fait de latin, très tôt m'avait donné un petit livre qui s'appelait Le Jardin des racines latines, et qui était de Pierre Larousse. Alors, vous voyez un peu le lien avec les
Oui.
dictionnaires aussi. Pierre Larousse avait conçu cet ouvrage. C'était d'ailleurs un titre qui avait été celui de Lancelot au XVIIe siècle, mais là il l'avait repris. Jardin des racines latines, il y avait aussi le jardin des racines grecques par Pierre Larousse, et il prenait l'ensemble des racines latines pour offrir aux élèves qui ne feraient pas de latin, ceux qui allaient au certificat d'études ou plutôt au brevet supérieur, pour leur montrer les liens entre les langues. Et là, c'était quelque chose de convaincant, ce qui fait que dès que j'ai été professeur de français, de lettres, j'ai eu à cœur de leur offrir les racines latines, les racines grecques. Alors, je n'ai pas repris, bien sûr, Larousse, mais je me souviens très bien de l'émerveillement des élèves de sixième et un peu plus tard d'autres élèves devant des choses qu'ils découvraient. Alors, parfois, c'était assez drôle parce que DK10, et je demandais évidemment des mots avec DK, avec décaféiné, ça marchait pas vraiment. Mais en réalité, ils étaient émerveillés de découvrir que des mots comme hippodrome, H-I-2-P-O, et que hypothèse, H-Y-P-O, l'orthographe était là, pour être cette fois-ci sur une autre racine au-dessous d'eux. Et donc cet émerveillement des élèves a fait de moi un professeur de lettres convaincu que c'était fondamental et que ça rendait heureux. Bon, est-ce que c'est aussi ça? Parfois, on
Ben
fait
oui, hein, c'est vrai
des
que
langues anciennes.
on pense toujours
On
que
pousse pas, ça n'est rien.
c'est rébarbatif pour les élèves, mais pas du tout. Ils adorent l'étymologie, effectivement. C'est un jeu assez fascinant. D'ailleurs, vous avez dédicacé ce livre dont nous allons maintenant parler en latin à votre épouse Marinette, que nous avons entendue un tout petit peu tout à l'heure au démarrage de l'émission.
Voilà, c'est août. Marinette mea linkis oculi, c'est-à-dire à Marinette mon œil de lynx, parce que c'est vrai qu'elle relit ce que j'écris. J'ai beaucoup écrit, là je viens de publier le 60e livre, donc parfois je me dis, mais c'est un peu trop. Mais en même temps, moi, je suis vraiment ravi de pouvoir transmettre le livre et quelque chose d'important. Alors pour être honnête, quand j'ai connu Marinette, je lui montrais mes premiers écrits. J'étais très vaniteux, un peu fier. Et quand elle me disait, ah, mais là, il manque une virgule, mais là, il faudrait peut-être un S. Et là, après, je me suis aperçu qu'il y avait quand même des personnes qui avaient un œil de lynx pour repérer les choses qui ne vont pas. Et maintenant, je n'écris rien sans qu'elle le relise.
Eh bien, nous la remercions, nous aussi. Nous allons marquer une petite pause. Donc, nous, on ne se quitte pas pendant que la musique un peu malicieuse va faire le lien entre les deux parties de l'émission. Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite, Jean.
À tout de suite, merci Martine.
Qui croque mes salades?
Assez, ça me rend malade.
Qui croque, qui croque mes laitues?
J'en ai marre, j'en peux plus.
Qui croque, qui croque mes romaines?
Oh, je sens monter la haine.
Qui croque, qui croque mes batailles?
Alors, nous sommes toujours sur Antiquissimo, une émission très joyeuse avec Jean Pruvot, parce que nous nous régalons, nous nous réjouissons autour des mots qu'on va faire danser. Alors, une question, c'est le 62e, je ne sais pas si j'ai bien compté, parce que vous avez tellement écrit ça et là, sur tous les sujets d'ailleurs, mais je n'ai pas trop le temps d'en parler aujourd'hui. C'est votre 62e livre. Pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire 100 mots latins pour bien écrire 1000 mots français?
Alors, ça fait longtemps, en vérité, que j'avais envie d'écrire quelque chose comme ça. J'avais même proposé à quelques éditeurs, et puis entre-temps, on m'avait proposé d'autres choses à écrire, et donc c'était mis de côté. Et je n'avais pas trop, disons, la formule. Et c'est vrai que le contact avec Laure, qui est
l'éditrice... Et la directrice de collection, oui.
Voilà, a été vraiment fructueux, cordial, et je dirais que je fonctionne beaucoup à la confiance, l'enthousiasme qu'elle a eu en me proposant l'ouvrage, m'a poussé à trouver un titre, et j'ai pris ce titre, je ne sais plus si on l'a choisi tous les deux, en tout cas il est venu assez vite, j'avais plutôt 100 mots latins pour bien comprendre 1000 mots français, mais dans le fond, bien écrire, c'est aussi un peu la même chose.
Bah, oui, puis c'est, aujourd'hui c'est important aussi de penser qu'on écrira bien grâce à la connaissance des racines, hein.
Voilà, et donc il y avait des exemples d'ailleurs qui étaient pour moi tout à fait manifestes, comme rebelle, rébellion, où on a toujours tendance à vouloir mettre des accents, et évidemment la racine latine nous pousse à être dans une bonne norme. Donc je me suis aussi dit que ça avait la tournure d'un dictionnaire, parce que au fond des choses, je commence avec une première latine, une première racine, Eikus, Eikum, donc, mais aussi Aguerre, etc. Et à chaque fois, c'est dans l'ordre alphabétique. Et il s'agit à ce moment-là de si en fin de parcours, quand il y aura une deuxième série.
Ah oui, parce que voilà, la question, j'allais la poser après, mais vous êtes arrêté au H, ça veut bien sûr dire que ce n'est pas fini.
Non, voilà, il y a un deuxième volume qui va paraître à la même époque l'année prochaine, hein, qui est en partie d'ailleurs fait, mais ça fera, si vous voulez, deux volumes. Et qui dit d'ailleurs que plus tard, ça ne fera pas un seul volume et un dictionnaire. Enfin, tout est possible dans ce monde ouvert de l'édition. Et en tout cas, ça a quelque chose de clarifiant pour moi, parce que je prends une racine, bon, calor, par exemple, j'en donne tout de suite, évidemment, la traduction. Entre-temps, tout de suite après avoir donné la racine, je donne toujours une citation latine qui permet de mettre dans le contexte. Donc là, c'était « clament, calent, rixant », ils crient, sont échauffés, se querellent, avec évidemment les références, ce sont les satires ménipées de Varron au 1er siècle, avant Jésus-Christ. Et puis, je donne évidemment des mots qui correspondent. Alors, caloricus, caloratus, etc. Je donne la traduction. J'explique aussi comment on est passé de calor à chaud en français. Hein. Che, c'est un peu, disons, ce qui s'est passé. Et puis, ça donne évidemment chaudière, chaud, chaleureux. Mais c'est là où j'ajoute quelque chose qui, pour moi, est plaisant. C'est de montrer que ben il y a toujours de l'inattendu, même pour ceux qui connaissent bien le sujet, c'est-à-dire même mes collègues latinistes, on fait pas toujours le rapport, et je l'avoue, je ne l'avais pas fait non plus tout de suite, avec un mot qui est le chaland, oui. C'est-à-dire le client ardent, qui était chaud.
Oui.
Les jeunes diraient il était chaud bouillant pour acheter.
Oui. Et d'ailleurs, et quand on dit un magasin bien achalandé, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de provisions, mais beaucoup de clients.
Voilà, d'où le magasin bien achalandé. Et puis, je n'avais pas forcément fait le rapport, mais nonchalant. Quelqu'un de nonchalant, c'est quelqu'un qui n'est pas ardent. Et alors, ça nous permet de passer aussi à des expressions un peu archaïques, anciennes, presque plaisantes, quand on dit « peu man chaud hein, », du verbe « chaloir »
oui.
qui a disparu. C'est-à-dire, ça ne me touche pas. Et dans le fond, quand on dit encore « je ne suis pas chaud », vous voyez, pour
oui, bien
je
sûr.
Ne sais pas, tel ou tel projet, ben, on est dans le latin, on est dans cette grande civilisation Et dans le fond, on a là bon, un récit qui nous plonge dans les mots qu'on connaît comme calories, calorifiques, etc. Des mots qu'on a un peu oubliés comme chaland, et puis où on n'a pas vu le rapport comme nonchalant. Et puis parfois des expressions archaïques comme peu manchot.
Et
Donc c'était
lorsque,
ça un peu
oui,
l'objectif.
et donc la méthode à chaque fois. Alors j'ai oublié de dire que chaque entrée est à la fois très fournie et très rapide. Hein. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de lassant. Le rythme est soutenu. Il y a beaucoup d'informations et comme vous disiez toujours le rapport avec la modernité de la langue aujourd'hui. Et on s'aperçoit que souvent on emploie des expressions parce qu'elles sont restées. Il y a beaucoup de choses qui s'en vont de notre civilisation, hélas. Mais il y a plein d'expressions très anciennes qu'on emploie et qu'on écrit parfois pour certains très mal. Et dont on ne sait pas bien à quoi elles correspondent. Et là, effectivement, vous remettez tout en place. Donc, une question que je voudrais vous poser, comment avez-vous fait votre sélection? Parce que ce n'est pas évident de choisir seulement 100 mots. C'est beaucoup et ce n'est
Ah,
pas
ça, c'est
beaucoup.
toujours. C'est toujours. Alors, en vérité, c'est une grande tricherie parce que j'ai annoncé au début 100 mots pour 1000 mots, mais dans mon intention, j'avais l'intention d'un seul livre. Et en définitive, bah, là, il y a bien plus de 100 mots et plus d'un millier de mots, mais il y aura deux livres. Donc, ça sera en gros, à la fin, plus de 200 racines, enfin, 200 mots latins, et de l'autre côté, plus de 2000, 2500 peut-être
Puisque vous
mots
avez
français.
croisé habilement les chiffres et les lettres dans votre titre, vous pourrez rajouter en dessous multiplié par deux, hein, ça ne choquera personne.
Oui, et vraiment le sous-titre, je n'y avais pas pensé, mais effectivement, en plus, on est en latin avec les multiples.
Exactement.
Mais
Alors.
c'est vrai que c'est toujours pour alors, un lexicographe, le mot un peu barbare et savant pour dire celui qui fait un dictionnaire, mais c'est un peu un dictionnaire, parce que je souhaitais quand même être homogène, c'est-à-dire de ne pas avoir des articles qui font 5 pages et puis d'autres une demi-page. Donc j'essaie, si vous voulez, de faire des articles de taille équilibrée. Et je suis content que vous ayez dit que ça se lit, que j'ai essayé d'être à la fois très précis, riche et sans développer outre mesure. Et qu'on aille droit au sujet avec à chaque fois, vous voyez, je prends Albus, bon, couleur blanche, mat, bon, je l'oppose aussi d'ailleurs à Candidus. Et puis j'évoque albinos, albumine. Et puis, à chaque fois, il y a une sorte de lien encyclopédique. Là, c'est Albion, par exemple.
Oui,
Pourquoi
la
dit-on,
perfide Albion,
voilà,
oui.
la perfide Albion, en rappelant donc c'est Bède le Vénérable qui, en 730, a lancé cette formule, parce que bien on voit les falaises blanches. Alors là, j'aurais peut-être pu ajouter que, ayant passé toutes mes vacances d'enfant à Boulogne-sur-Mer, nous voyons l'Angleterre avec ses falaises de craie, de Douvres, de Folkestone, de Boulogne-sur-Mer quand il fait beau. Donc c'est bien quelque chose que les Romains voyaient, hein, et Napoléon par la suite.
Alors moi, je vais pratiquer une décimation vraiment terrible, car j'ai choisi une dizaine de mots comme ça, qui peut-être, même sûrement, correspondent à une thématique autour de la nourriture, parce que c'est quelque chose que j'étudie, la nourriture dans l'Antiquité. Par exemple, le mot apis, dont vous dites à juste titre qu'on l'emploie en latin souvent au pluriel, et ces abeilles, ces mouches à miel, vous en dites beaucoup de choses sur apis.
Oui, alors ce qui est, merci d'avoir choisi ce mot, parce que en vérité, le latin, il y a le mot latin, c'est pour ça qu'on a choisi mot latin plutôt que racine. Il y a un mot latin au début qui est apis, abeille, bon, avec une citation, je crois que c'était de Varron, apes non sunt solitaria natura, hein, les abeilles ne
Oui.
sont pas solitaires par nature. Et puis ce mot se déforme, passe parfois par l'occitan ou par le provençal, et on arrive finalement au latin, alors qu'on appelle vulgaire, qui change un petit peu le mot classique, avec apita, et du latin apicula, petite abeille, va venir le provençal abella, donc qui est une déformation, mais on est toujours dans le fond le suivi du latin avec ses déformations naturelles. Et puis aux alentours de 1500, voilà la forme définitive abeille. Et donc, si vous voulez, le parcours d'un mot comme celui-ci nous permet aussi de relever à quel point des mots passent par des régions et qu'on est enrichi en définitive. Et c'est toujours très intéressant d'ailleurs pour quelqu'un, pour un élève, pour nous-mêmes, quand vous êtes en Provence, d'expliquer qu'on le doit au latin, puis au latin repris en provençal. Et finalement, c'est quand même plus joli que mouche à miel. Bon, quel
Non,
était
c'est sûr. Apicula, abeille. Alors bon, on n'aura pas le temps de dégrainer tous ceux que j'avais sélectionnés. Aqua, capper, carreau, crouor, Edo. Alors, je vais m'arrêter peut-être sur Edo, parce que vous expliquez, j'aimerais que nos auditeurs l'entendent, qu'il faut voir un lien entre comestible et obèse.
Oui, alors là aussi, j'ai choisi, ça peut m'être reproché un petit peu, il y a soit, si vous voulez, la forme pure grammaticale latine qu'on prend, et à ce moment-là, bon, parfois on est un peu, on comprend pas le lien avec les mots. J'ai plutôt choisi les formes qui correspondaient le mieux. Donc, edo, edere, esse, manger, et on va avoir, bon, les mots latins comme edax, vorace, et puis on va voir le verbe comedo, alors comme edo, évidemment,
Oui.
quand d'ailleurs l'espagnol va reprendre tout ça, et c'est là que arrive comestum. Et comestibilis, donc à l'origine de l'adjectif français comestible, qui lui est arrivé en 1390. Alors évidemment, pour obèse, ça paraît plus compliqué. Il y a le verbe edere, qui a donné obesus, gras, bien nourri, aboutissant donc au français obèse. Et c'est là que parfois, bon, il faut vraiment expliquer les choses parce que on peut comprendre qu'un élève et que nous-mêmes, d'ailleurs, aucun étymologiste repère pas
Bien
dans, si
sûr.
vous voulez, les quelques lettres qui restent. Mais c'est le propre du latin. On le sait quand on est consulte le Gaffio, parfois d'être éloigné de la forme première et d'être obligé de refaire le lien. Alors
Alors, voyez comme
ce
tout ça est tellement passionnant que ben, l'heure, enfin pas l'heure, parce que malheureusement c'est une petite demi-heure qu'on a passée ensemble, est déjà écoulée. Donc il va falloir que je vous laisse partir. Et peut-être sur la formule que vous avez employée dans votre livre emprunté à Cicéron, correspondant avec Atticus, bene ambula et reddito cum bona fortuna.
Ah,
C'est-à-dire,
très bien.
bon voyage et reviens avec bonne fortune. Eh bien, revenez-nous avec le deuxième tome. Merci Jean.
Merci Martine.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.